C'est possible que vu ton âge, l'iPad c'est pour bientôt.
Les pads,
Oui.
les iPads,
Voilà, les
les.
iPads ont le pad.
Ah ben ouais, en plus, quand on n'a pas dedans, c'est les pattes. Ah non, pardon, c'est pas.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr, bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MMU, Roudoudou et Medbel. Bonjour les gars.
Coucou.
Hello.
Et cette fois, bah, le sujet abordé sera présenté par notre Roudoudou.
Ouais.
Vas-y,
Les
explique-nous un petit peu ce que c'est. C'est un rapport avec l'EHPAD.
40 ans du CPC.
Ah ben bah voilà, je
Ouais,
m'en
on
doutais.
va parler de vieux.
C'est politique.
Eh bien, pour ceux qui découvrent l'émission, parce que forcément, il y a les fanboys de CPC qui vont arriver sur notre émission. D'ailleurs, on les salue parce que
Ouais.
voilà, ça fait partie aussi des communautés geeks qui ont aussi la dent dure, puisqu'ils sont toujours là, 40 ans après.
Continuez, vous avez ma bénédiction. Ah non, ça c'est la démo partie bientôt.
Exact. Mais avant, nous allons passer par un peu d'actu.
Ah bon?
Mais oui, Medbel, tu nous parles d'une disparition.
Disparition d'Evelyn Berzen à 93 ans. Elle a créé le premier traitement de texte électronique et le premier système de réservation d'avions informatisé par United Airlines. Le Computer History Museum propose une interview de 3 heures pour découvrir son travail.
Et puis on a bah justement l'Amstrad CPC 464 à 40 ans. Mais bon, c'est Roudoudou qui va nous en parler.
Le domaine de premier niveau, I/O, va disparaître. Le gouvernement britannique va rétrocéder les îles Chagos à l'île Maurice, renonçant ainsi à leur souveraineté sur ces territoires, et donc dans le domaine du premier niveau correspondant sur Internet de l'IANA, devrait bientôt annoncer sa mise à la retraite et sa disparition probablement d'ici 10 ans. Ben, le Yahoo, c'est pas pour dire yo, mon site, il est top. Mais c'était comme le point fr, ou plutôt le point re, l'île de la Réunion, à son propos. Donc, rien à voir avec les tech bros qui aiment les jeux de mots laid pour leur site. Vous êtes prévenus.
Bah oui, tous les github.io, les bidules.io, en fait, c'est pas parce que c'est sympa, c'est juste que c'est comme un point fr, mais les gens, ils veulent faire des jeux de mots à la con.
C'est ça.
Ils feraient mieux les faire à la radio comme nous.
Et voilà, c'est tout pour l'actu.
Ouais.
Merci. Nous allons écouter Mort d'un robot. Et on se retrouve tout de suite après pour le sujet du jour avec le CPC et Rodoudou. À tout de suite.
Sur le bouton, quitter la terre, il est encore temps.
et je vous ai sauvé. Oh, si vous voulez m'assassiner après ce que j'ai fait, moi qui vous ai aimé, je peux tout faire sauter. Oh, pas de problème pour me soigner, vous m'avez fabriqué, j'ai appris à pleurer, je vais apprendre à tuer. Oh, j'ai beaucoup travaillé.
Wow. Il s'agissait de Mort d'un robot de Daniel Balawan. Une vieille musique, finalement, je m'en souvenais même pas.
Moi non plus, je suis tombé dessus.
Vraiment par hasard. Hein.
Ouais.
Et du coup, oui, ça, c'est un peu prémonitoire, quelque part, cette musique, puisque ça parle de robots. De fin du monde.
On verra.
C'est peut-être un robot qui chante.
Hein. Oh, on ne sait pas. Hein. Est-ce que ce ne serait pas une IA toute derrière pour chanter ce genre de musique ?
Surprise.
Va savoir. En tout cas, travaillons dur, mais notre ami Roudoudou a bien travaillé.
Et oui.
Et d'ailleurs, on va l'écouter.
Et 40 ans du CPC. Alors, et oui, c'est cette année. Donc, il y a beaucoup d'activités pour les 40 ans du CPC. Ça fait plaisir. Donc, du côté de la Démoscène, on va avoir un des plus gros meetings depuis 17 ans. Donc une quarantaine de personnes avec plein de revenants, des invités prestigieux, hein, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, moi, je suis tout chose. Je vais rencontrer enfin des pointures venues d'Allemagne, dont l'auteur de SimboS, Prodatron.
Wow.
Et SimboS, c'est un système d'exploitation multitâche dont les derniers développements ont abouti à une machine virtuelle CPM, ainsi que le portage d'un compilateur C avec des normes pas trop anciennes. Il y aura aussi BSC, qui est l'auteur du premier soundtracker puissant et performant orienté démo. Il y avait eu d'autres trackers avant, mais c'était plutôt pour agrémenter des programmes en basique. Voilà, donc moi je vais presque être chagriné que ce meeting ne dure que 4 jours, mais je vous en parlerai prochainement.
Il y a intérêt.
Alors, pendant la période Covid, donc il y a quelques années, il y a eu pas mal de streamers qui ont profité du temps libre de certains pour les interviewer. Et la hype des interviews ne s'est pas arrêtée, loin de là. Donc on a pu avoir le point de vue de gens qui travaillaient dans les studios de jeux vidéo, dans la presse spécialisée, aussi chez les fabricants. Et par exemple, depuis quelques années, Roland Perry, qui est le concepteur du CPC, fait un peu la tournée des popotes. Mmh. Et il a même donné les prototypes du CPC qu'il avait chez lui, il les a donnés à une association espagnole, je me rappelle.
Olé.
Et la machine fait le tour des conventions. Donc la machine, pour l'instant, on a pu la voir en Angleterre, en Espagne et peut-être un jour en France. Mmh. Voilà. On a eu pas mal de livres, mais encore plus cette année. Hein, pour les 40 ans, tu parlais tout à l'heure dans les news des 40 ans, il y a Patrick Helio qui a fait un livre. Donc c'est un très gros bouquin, hein, ça fait le tour des réseaux sociaux, c'est un monstre de 600 pages. On a aussi l'ouvrage de Gunhead, plus abordable, qui s'appelle Marion et les crocodiles d'Amstrad.
Ah non, il a fait encore des images avec plein de filles.
Il y a très peu d'images avec des filles, c'est la question. Et c'est, à mon sens, le meilleur du moment.
Alors, d'accord.
D'abord, il a réussi à faire parler Marion Vanier, ex-directrice générale d'Amstrad France. Ooh. L'aventure ne s'était pas très bien terminée pour elle et les déclarations qu'on pouvait trouver de sa part, une fois reconvertie dans la poterie, étaient claires. Ne me parlez plus de ce taf où j'ai fini en burn-out. Je résume. Hein.
Se disait pas à l'époque, le mot existait pas, mais ça existait déjà, quoi.
Non, mais ça avait été un truc de cinglé, c'est-à-dire qu'elle avait organisé des campagnes marketing de son lit d'hôpital après l'accouchement, hein. C'était complètement barré. Et donc dans ce livre, on n'est pas dans l'inventaire, c'est une histoire qui raconte l'ambiance, la vie des équipes durant la période commerciale des ordinateurs. Gunhead annonce la couleur, hein. Il va faire parler des personnages, c'est romancé, mais c'est sur la base d'infos obtenues auprès d'anciens d'Amstrad, et tout le rocambolesque, voire le vulgaire, est certifié en deçà de la réalité. Et donc, c'est-à-dire que des rebondissements et du rocambolesque dans l'histoire de cet ordinateur, on pourrait en écrire mais plein de livres. Le premier prototype de CPC, par exemple, utilisait un processeur Motorola, mais l'équipe ayant filé à l'anglaise, c'est Roland Perry qui reprendra le projet, changera le processeur pour un Z80 et modifiant la machine de façon à ce qu'elle soit plus ouverte, évolutive et compatible CPM. Il faut préciser qu'à l'époque, MS-DOS n'était pas encore le maître de la partie,
oui,
en tout cas certainement pas du côté des ordinateurs personnels, et une licence MS-DOS n'est pas gratuite. Alan Sugar, le PDG, tenait à rentabiliser au maximum ce qu'il considérait alors uniquement comme un coup à faire pour Noël.
Et sucré sur les autres.
Et ça a plutôt bien fonctionné.
On rappelle que Amstrad, c'est Alan Michael Sugar Trading Company. AMS-TRAD.
Et alors, je vais faire un petit retour dans le passé de quelques années, car pour bien décoder l'histoire d'Amstrad, il faut croiser les informations. Ainsi, quand Thomson sort son ordinateur personnel, le TO-7, l'idée derrière tout ça était de vendre une télévision de plus par foyer. Et si cette télévision supplémentaire était une Thomson,
bah, c'était
mieux. Donc Alan Sugar reprend donc quelques années plus tard cette recette, mais oblige à prendre son téléviseur, en fait des télévisions 36 cm portables avec une poignée, qu'ils ont rebadgé et modifié pour intégrer l'alimentation de l'ordinateur.
Mais sans le tuner, comme ça on te le vend en plus.
Mais oui.
Bah oui, alors, ils enlèvent le tuner donc pour le revendre plus tard en tant qu'accessoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on enlève un tuner, ça... il n'y a pas que le prix des composants qu'on enlève, on enlève aussi une très très grosse partie de taxes. Alors, il y a la redevance télé,
oui,
mais il y a aussi la taxe à la fabrication. Et en France, c'est pas loin de doubler le prix. Hein, quand on regarde le prix entre un moniteur et un écran de télé. Ouais. Alors, le tout assorti d'un tarif agressif, la machine a réalisé de très jolis scores en Europe de l'Ouest, principalement la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Quelques exemplaires se sont perdus aux US et possiblement en Australie ou au Danemark. Alors, au Danemark, pour notre plus grand bonheur, puisque c'est au Danemark que NWC programmera quelques-unes des démos CPC les plus innovantes.
Mmh.
En France, le succès des machines va ouvrir la porte à toute une série de magazines au ton léger qui trouveront facilement leur cible. Tilt, le leader en place, avait un contenu beaucoup trop mature et adulte et suivait mollement l'actualité. Génération 4, Snobel et 8 bits. Le boulevard était tout tracé pour de nombreux magazines plus frais. Du lot va sortir Amstrad 100%, emmené par une équipe hallucinante, dont Cined, Ruby ou Poum, qui y partageaient leurs connaissances pointues dès le premier numéro avec l'envie d'explorer la machine. Cined était un touche-à-tout, il terminera avec une belle série d'articles pour exploiter les disquettes au mieux, avec un formatage propre qui offrait 20 kg de plus par face. Ruby, lui, plus dans l'esprit des mots, cherchait à caser un maximum de speedrasters sur une ligne ou faisait des scrolling hard énormes. Les démo makers n'étaient pas que chez Amstrad 100%, on aura d'autres pointures telles que Stéphane Saint-Martin pardon, ou Fabien Fessard qui officieront dans un magazine concurrent Amstar. Alors, pour ceux qui pensent connaître l'histoire du CPC, j'aimerais qu'on arrête enfin avec cette légende urbaine sans queue ni tête de stock de lecteurs de disquettes qui explique la raison de l'intégration des lecteurs 3 pouces. Roland Perry, le concepteur du CPC, que l'on voit donc régulièrement ces dernières années dans des conventions en Angleterre ou en Espagne, l'a parfaitement démenti. C'est une bête histoire de licence et de format. Les lecteurs 5 pouces 1 quart étaient trop gros pour être intégrés dans le boîtier du CPC, mais ils seront mis dans les PC 1512 et 1640 d'Amstrad.
Et oui.
Les lecteurs Sony 3 pouces et demi étaient trop chers, les disquettes aussi. C'est donc Matsushita qui remportera le marché et améliorera ses lecteurs durant la vie commerciale des CPC. Oui. Avec pour la sortie des plus en 90, même un modèle 5 volts seulement. Il n'y avait pas de stock, ces lecteurs étaient produits à la demande et ils ont évolué pendant toute la durée de vie des CPC. Il y a eu 5 modèles en tout. Et après le CPC, il y a eu d'autres évolutions. Rien à voir donc avec un stock dont il aurait fallu se débarrasser, mais les légendes urbaines ont la vie dure et je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Roland Perry a donné donc de nombreuses interviews hein, qu'on peut trouver sur YouTube hein, et qui vraiment régaleront les amateurs. Toutes les réponses ne sont pas bonnes à entendre. On se rappelle que beaucoup de gens ont attendu un nouveau CPC 16 bits à même de concurrencer l'Atari ou l'Amiga.
Oui, oui.
Et quand les modèles plus avec quelques petits plus sont sortis, ça a fait un bide. Les Atari et Amiga approchaient de leur fin de vie, ils étaient plus abordables, plus puissants.
Ouais, mais il y a eu une console, la GX4000.
Ouais, c'est pareil. Et à ce four total qui a déçu les amoureux du CPC, Roland Perry répondra simplement « La gamme 16 bits existait déjà, c'était les PC ». Et il avait raison, ces modèles seront aussi un gros succès pour la marque. Et tant pis pour les joueurs que nous étions, tant pis pour l'idée qu'on se faisait de ce que les CPC pouvaient devenir. Il n'avait jamais été dans l'idée de faire un CPC 16 bits. Je reviens sur la sortie du magazine Amstrad 100% avec quelques anecdotes fumeuses. La première est connue, c'est-à-dire qu'avant qu'Amstrad 100% débarque en fanfare, il y avait un autre magazine, sobrement appelé Amstrad Magazine, dont le chef de publication avait pris quelques libertés avec le fax qui lui servait d'autorisation à utiliser la marque déposée Amstrad. En effet, il était allé jusqu'à organiser une énorme Amstrad Expo sans Amstrad France.
Oups.
La fin de la récré finit par tomber. Amstrad France le somme d'arrêter d'utiliser son nom, en fait pour lancer le magazine Amstrad 100%. Pas grave, le journal continuera sous le nom AmMag. Je me rappelle avoir eu le numéro spécial Help, ancêtre de la bible d'époque de feu le magazine joystick qui déboulera plus tard sur la fin de vie de la machine. Autant dire en tout cas que les relations entre Amstrad 100% et AmMag n'étaient pas au beau fixe. Et il y avait beaucoup de mépris entre les magazines. Tilt, par exemple, avec son équipe professionnelle de non-joueurs, souffrait d'une image austère auprès des jeunes, trop sérieuse mais surtout sans passion aucune, in fine peu attrayante. Jean-Michel Blottière, ex-rédac-chef du magazine, n'a semble-t-il toujours pas digéré la concurrence qui faisait, selon lui dans une interview le mois dernier, des journaux de mauvaise qualité. J'ai donc enquêté pour vous, et relu quelques numéros de Tilt.
Ah.
Il y avait certes de bons articles de fond, mais dans les autres magazines aussi. Et ce qui lui manquait, à mon sens, c'est la recette qui a fait le succès d'Amstrad 100% et plus tard de Joystick. Une mise en page attrayante, de l'humour, des détails techniques, de la déconne. Et enfin, quand je disais qu'il manquait la passion du jeu, il suffit vraiment de reprendre quelques numéros de la fin des années 80 pour voir des jeux nuls classés hits et des hits relégués à la seconde zone dans la rubrique Rolling Soft qui se sous-titre tel que « Ils n'ont pas mérité d'être en hit ». Désolé Jean-Michel, quand ça veut pas, ça veut pas. Dans cette guerre ouverte entre magazines, il y avait aussi une course au scoop. On peut voir avec un œil amusé un test soi-disant exclusif de 944 Turbo Cup dans le numéro de décembre 98 d'Amstrad 100%. Alors que la sortie nationale était annoncée le 28 octobre, et que trouvait-on dans les autres numéros de décembre 88 du magazine Amstar ? Un test de 944 Turbo Cup. En fait, tous les autres journaux, à part peut-être Tilt, avaient testé le jeu en même temps. Et quitte à raconter n'importe quoi, il fallait aller plus loin. Décembre 88, on commence à voir apparaître des publicités de Lancor pour un jeu d'aventure dans ce même numéro d'Amstrad 100% et d'Amstar. Après être passés pour des imbéciles à vanter des exclus pas exclusives, ils allaient y aller franco. Un faux test d'un jeu pas sorti.
Ah, énorme.
Le numéro de janvier arrive et le test du jeu d'aventure sort. Alors, ce n'est pas le test de n'importe quel jeu, c'est le test du Manoir de Mortevielle, gros succès sur Atari, et bien connu des joueurs de CPC pour une bonne et simple raison, sa qualité globale de réalisation. Pour rappel, sur CPC, les jeux d'aventure avaient souvent des graphismes moyens, parce que ça économise la mémoire, ou en 4 couleurs, pour gagner en finesse. Avec moins de couleurs, on a des pixels plus petits. Là, c'est du mode en haute couleur, les pixels sont plus gros, mais les images sont plus colorées. Et la raison de ce choix technique, c'est que contrairement à quasiment tous les jeux d'aventure sur Amstrad, on ne va pas taper de texte. On va utiliser des listes déroulantes et le curseur d'une souris, même si on n'a pas de souris, pour pointer des choses à l'écran, ouvrir des tiroirs, ouvrir des portes et se déplacer. D'habitude, voilà, il fallait écrire du texte à la main. Et ça, c'est quasiment du jamais vu sur CPC. Surtout que chaque changement de lieu s'introduit par des sons digitalisés de très bonne facture. Il y a même une synthèse vocale avec des voix différentes pour chaque personnage. Je rappelle que ce jeu fonctionne avec 64 kilo-octets de mémoire.
C'est juste énorme, hein. Sachant qu'on est sur une machine 8 bits hein, quand même.
Oui, non, techniquement, c'est excellent et il y a matière à faire un beau test. Donc pour les pinailleurs, il y a eu au moins un jeu utilisant des listes déroulantes avant le manoir de Mortevielle. Il s'appelle Profession Détective. Mais il n'y avait pas d'interactivité avec l'écran, pas de synthèse vocale, pas de digites, pas de complexité dans l'histoire. Voilà, donc quand le manoir de Mortevielle sort, c'est la mâchoire qui tombe pour tout le monde hein, dès l'écran d'introduction. Donc Amstrad 100% fait semblant de tester ce jeu. Et le test est lunaire. Alors déjà, ils ont utilisé des photos de la version Atari. Donc il y a bien la petite mention photo de la version Atari, mais pourquoi ? Le test s'étale sur 2 pages, reprenant de façon peu inspirée le narratif de la solution du jeu bien connu des Ataristes. Donc littéralement, l'article raconte une histoire en recopiant la solution du jeu. Il n'y a absolument aucun détail technique dont la revue se fait pourtant une spécialité, a fortiori quand un jeu dénote à ce point des autres. Les graphes, la musique d'intro, les digits, la synthèse vocale, rien. On lit le test, et en le lisant, on ne sait même pas qu'on parle d'un jeu. Ça raconte une histoire. Le test n'est pas signé, contrairement à l'habitude. Et dans le numéro suivant, devant les remarques des lecteurs, la rédaction poussera le bouchon un peu plus loin. Si, je vous jure, on l'a bien testé. On a mis des photos Atari parce qu'on a eu un problème technique, mais ouais. Je vous jure, on l'a testé.
Mais bien sûr.
Sur ces PC. Il faudra attendre le mois suivant chez Amstar, en février, pour avoir un vrai test, avec l'étonnement technique mérité par cet ovni. Enfin, un logiciel d'aventure qui parle, et de surcroît bien. Une fois plus, l'accent est mis sur la qualité des graphismes. Ils vont jusqu'à reprocher le côté grippin avec la disquette qui prouve que le jeu a bien été joué sur ces PC. En effet, la quantité de jeux fait qu'on est souvent obligé de retourner la disquette pour accéder à telle ou telle donnée. Dans un autre magazine, à Mag, le jeu n'est testé que dans le numéro de mars, 2 mois plus tard, avec toujours les évidents détails techniques qu'on se plaît à étaler. Réalisation impeccable, s'y ajoute une panoplie sonore inhabituelle dans ce type de jeu, synthèse vocale, bruit et musique digitalisée. Au point qu'il est conseillé de brancher votre Amstrad sur une chaîne Hi-Fi. Cette dernière phrase venant tout droit de la notice CPC, attestant qu'ils avaient eu le jeu entre les mains, eux. Voilà, bon, j'étais parti pour vous parler des 40 ans du CPC, j'ai commencé à parler d'un livre, d'anecdotes, et en voulant vérifier quelques déclarations récentes de rédacteurs, je me suis retrouvé à détricoter des falsifications en partant de règlements de compte des uns et des autres, et je suis tombé sur cet article foireux sur ce faux test de jeu, et du coup j'ai continué de creuser et de détricoter, et j'ai relu d'autres magazines à d'autres dates pour trouver le vrai du faux. Voilà, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'au bout de 40 ans, il y a encore plein de choses à découvrir, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, notre période CPC. Et si vous voulez pousser un peu plus loin donc l'histoire du CPC, aux approximations près, hein, on vous mettra des liens vers les ouvrages du moment.
Voilà. Super.
Eh ben, merci pour ce fact-checking.
Mais du coup, à mon avis, ils n'avaient pas le jeu en main, ils ont fait semblant pour avoir l'exclusivité. Et...
ils voulaient avoir une exclue, ils voulaient être avant les autres. Y avait...
du coup, ils se sont exclus.
Mais il y avait vraiment des guerres entre tous les magazines. Hein, donc,
Ouais, et Hebdo-GCL aussi, hein, sur les CPC, hein, c'est tué.
Oui, aussi.
J'en ai quelques-uns qui traînent au Fabrico, d'ailleurs, dans le hall. Si
ouais, c'est
vous
vrai.
Passez, vous pouvez les feuilleter.
Très bien. Merci, Roudoudou, pour ton sujet. Écoute, on ne change pas de thème puisqu'on reste dans le CPC une petite musique qui va sûrement vous chatouiller les oreilles. À tout de suite pour l'agenda. Thank you. Il s'agissait de Square Root de Tom et Jerry du groupe Vanity, donc une musique à illustrer une petite intro de 4 kilos. Et oui, 4 kilos, c'est pas grand-chose. Et ça a été présenté à la révision 2020. À l'époque, c'était en ligne. Et c'est forcément, bah, c'était sur Amstrad CPC.
Eh bah ben oui.
Voilà. On passe à l'agenda. Et rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Ouais.
Nous avons une pièce de théâtre qui a hacké Garutia.
Garutia, c'est dur à dire.
Garutia, non mais je suis dyslexique, tu peux comprendre. Alors, tragicomédie policière en 4 actes qui raconte les vies successives de Garutia, un agent conversationnel, une botte du futur. Oh, la version papier est disponible chez CFE Éditions. Donc ce sera le mardi à 19h30 jusqu'au 31 décembre. Donc c'est les mardis. Hein,
ouais.
À la scène parisienne, 34 rue Richier à Paris.
Voilà, et c'est 12,50€. C'est pas cher. On a vu, en fait, avec Flo, on est allé, vous rappelez-vous, pour les guichets du savoir pour les 20 ans. Mm-hmm. Et en fait, on a eu une version raccourcie de la pièce qui a été jouée pendant l'événement. Donc c'était assez amusant.
Ah mais oui, je m'en souviens.
Et ouais. Game Story, de retour à Versailles, on vous en avait parlé aussi, oui. Ça, donc la plus grande rétrospective de jeux vidéo d'Espagne, Game Story, avec MO5.com, hein, c'est eux qui organisent ça.
La plus grande rétrospective du jeu vidéo d'Europe, pas d'Espagne.
Pourquoi j'ai dit Espagne?
Parce qu'il a parlé d'Espagne.
Ah, mais c'est ça. Voilà, non, mais c'est... Oh là là.
Avec MO5.
Manipulation mentale et tout ça.
Ah, oui.
Voilà, donc oui, la plus grande rétrospective en Europe, donc c'est Game Story avec MO5.com. Ouais. Et donc, il y a plus de 100 machines jouables avec donc des machines anciennes, mais aussi des machines, des jeux modernes. Voilà, ouais. Donc ça, c'est du 19 octobre au 25 avril 2025. Vous avez encore le temps. À l'ancienne poste de Versailles, donc c'est face au château. Ça a l'occasion, si vous allez visiter le château, bah, aller visiter aussi d'autres choses du patrimoine.
Bien sûr, oui, ça fait partie du patrimoine.
Et, hein. Bah oui.
Et on salue MO5. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dans les backstage. Et en ce moment, on est en plein rush par rapport à l'organisation. Allez, Girls on Code, stage gratuit d'initiation à l'informatique pour les collégiennes et les lycéennes. Alors, ce sera sur inscription le 19 octobre, le samedi. Peut-être le 20 aussi, c'est un peu contradictoire.
Oui, j'ai eu des informations différentes, donc je ne suis pas sûr.
Faudrait, en tout cas, les filles, allez-y à l'ESISA, rue Barthélemy de la FEMAS à Valence.
Atelier enfant au Fabrico, donc pour les vacances d'octobre, il y a encore quelques places. Donc mardi 22 et mercredi 23 octobre, de 14h à 16h30, c'est l'atelier lampe plexi. C'est un atelier en 2 parties. On réalise une lampe en plexiglas avec un éclairage LED et puis on imprime le boîtier en 3D et puis voilà, on assemble et on repart avec. Ça, c'est 60€ les 2 ateliers après adhésion. Donc 7€ l'adhésion, c'est à l'année, ou alors il y a un surcoût de 2€ pour l'activité. Et puis vendredi 25 octobre toujours, 14h-16h30, il y a la lampe solaire. Donc là, bah, vient initier à la découpe gravure laser et à l'électronique aussi, parce qu'il y a un petit peu de soudure, en confectionnant une lampe solaire. Ça, c'est 30€ l'atelier, toujours avec l'adhésion en plus ou les 2€ en plus pour l'activité. Donc c'est payant sur inscription et c'est au Fabrico, cette rue Belle-Image à Valence. Voilà.
Bien, bien. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, les activités et ateliers pour enfants au Fabrico, je peux dire que quelqu'un dans mon entourage l'a testé.
Ouais.
Et atteste aussi qu'il était vraiment très très fier de ses réalisations. Donc les enfants, n'hésitez pas à demander à vos parents s'ils sont dans ce coin, dans cette
appeler
période.
En tout cas pour vérifier qu'il y a encore de la place, parce que effectivement il y a déjà un atelier que j'ai enlevé de la liste parce que c'était plein.
Ah.
Donc c'est bien, ça veut dire que ça commence à se remplir et que ça commence à se savoir.
Génial. Allez, voilà. Du lien des liens, qu'est-ce que tu nous as trouvé?
Alors, on va parler de vidéos. Donc, les vidéos des JDLL, les journées du logiciel libre, sont sorties. Donc, on rappelle que c'est les journées du logiciel libre de Lyon. Donc, c'est à Lyon. Et ça a eu lieu au printemps. Alors, cette année, c'était un peu tardif parce qu'il y a des soucis de lieu et tout ça. On en avait parlé. Et donc, on peut, par exemple, retrouver la conférence sur les chatons qui revient notamment sur l'année 2023 du collectif. Et toujours des vidéos, mais ce coup-ci du rétro, une interview récente de John Romero et Jordan Mechner, ensemble, sur la préservation de l'histoire du jeu vidéo. Ah, si seulement ils pouvaient être entendus, parce que c'est pas gagné.
Eh bien.
Et alors, quelqu'un a rédigé une playlist de vidéos, toujours, mais sur PeerTube, sur le rétro gaming, donc c'est classé par machine. Donc il y a une playlist pour le CPC, tiens, pour l'ORIC, pour l'Atari, pour l'Amiga, pour du MSX aussi, donc plein de choses si vous avez des coups de cœur pour une machine en particulier. Et puis, 40 ans toujours, mais c'est pour le jeu Elite. Donc il fête ses 40 ans et son docteur Yann Bell a publié gratuitement les codes sources des versions Apple, Atari, C64, NES, ainsi que des portages jamais terminés sur Super NES et BBC. Et pas sur CVC, c'est bizarre ça.
Alors moi j'avais juste une petite remarque, c'est qu'ils sont deux, parce qu'il y a David Braben aussi.
Ah après oui, c'est moi j'ai vu passer l'actu, je connais pas le jeu spécialement. Mais ah, donc...
voilà, moi je suis fan de ce jeu et donc je connais leur nom. Et David Braben qui...
Merci pour le fact-checking.
Qui fait Elite Dangerous, un jeu moderne actuel.
D'accord, bien. Donc c'est une suite, c'est inspiré.
En fait, ce jeu, il a connu des tas de mises à jour. Alors, sur Atari, il y a eu Frontier First Encounter.
Ouais, c'est comme Zelda, c'est pareil.
Il le fait évoluer avec les années et le matériel. Et...
Ouais, c'est cool.
Sympa.
C'est son bébé.
Voilà.
Maître Bell, j'ai cru que tu voulais intervenir.
Ouais, mais j'ai oublié.
Pas de soucis.
Ça reviendra.
En tout cas, nous allons passer à l'astrologique. Frottons cette boule.
Sysadmin, aujourd'hui, on erase gratis.
Old school, c'est PC, mais c'est passé.
No life, je ne me suis pas levé de mon fauteuil aujourd'hui, mais au moins c'est un Amstrad.
Ouais, mon neveu, il a un fauteuil Amstrad.
Ah oui,
je savais pas que ça existait encore.
C'est vrai.
Moi, j'ai un t-shirt Amstrad.
Ah ouais.
Ah, tariste, oui, hein, bon, mais ça va, ça vous avez un 68 000.
Amigaïste, ouais, ça va, vous avez un 68 000 et des copros.
Musicien, j'ai mis le casque odieux.
Ah,
oh là là.
Ah là
ça
là.
Vient bien de faire mal aux oreilles.
Ouais, exactement.
Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission spéciale CPC 40 ans. Ce numéro a été préparé par MMU, moi, Maître Bell et Roudoudou. Et puis, enregistré également dans les studios de Radio Méga. D'ailleurs, c'était Underscore sur Radio Méga ou Cactus, tout dépend où vous nous écoutez. Et vous pouvez également retrouver tous les liens et le podcast de cette émission sur underscore.radio.fm. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau sujet. Et je crois que ça va vous faire peur. Mais je vous en dis pas plus.
Ah bah ça va faire peur, mais c'est pas celui-là auquel tu penses.
Et c'est ça.
Mais parce qu'en plus, on est obligé d'enregistrer parfois pas dans l'ordre.
Spoiler.
C'est ça qui fait peur.
C'est justement c'est ça, parce qu'on s'en mêle les pinceaux.
C'est pas fou. Allez, à très bientôt.
Ciao.
Bye.
Salut. Bye bye. Ciao.
Bonjour Yvan, bonjour Lulu, bonjour Nebel, bonjour Flo.
Ouais, c'est
juste une
question.
Hey, c'est fait.